Donc, on va enchaîner avec une communication collective, me semble-t-il, donc, avec Elvire Bornan, Frédéric Letourneux et Thibaut Rabin, qui sont, je tourne ma page, donc, associés au Centre Nantais de Sociologie et qui nous proposent une enquête collective plutôt ethnographique, et qui sont donc trois grands ennemis de l'international situationniste puisqu'ils sont sociologues.
On a fait une enquête ethnographique, ça veut dire que nous, on s'est vraiment intéressé à comprendre qu'est-ce qui fait que des gens se disent appartenir à la scène punk à un moment donné. Parce qu'on a fait une enquête dans le temps en interrogeant des personnes qui ont fait partie de la scène des années 80 jusqu'à aujourd'hui. On en est à plus d'une quarantaine de personnes interrogées. On a pris le parti de fonctionner en réseau. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait un entretien, on demande à la personne qui j'ai intérêt à voir après. Parce qu'on s'intéressait à la manière dont la culture punk peut être transmise. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter ce que disent les personnes qui se disent appartenir à la scène punk et à la scène hardcore. Et je vais vraiment le faire d'un micro point de vue par rapport aux deux précédentes interventions. Moi, je vais vous dire comment des personnes qu'on a interrogées sur Nantes, parce qu'ils y sont passées à un moment donné, des personnes qui sont pas connues, qui sont musiciens, mais qui le font sans avoir jamais ni continué à gagner leur vie avec la musique, racontent cette expérience plutôt intime de l'appartenance à ces deux scènes. Sur les choses globales que je peux vous dire sur toutes ces personnes qu'on a interrogées, c'est que l'entretien, il commence toujours à peu près de la même façon. La personne commence par nous dire « je suis pas le mieux placé pour vous en parler ». Et quand on se demande « mais pourquoi ?», il y a une vraie peur de se prononcer sur ce qu'est un genre musical. Il n'y a aucun mal, et ça peut durer des heures du moment qu'on parle de la pratique quotidienne, de ce que ça fait d'être à un concert, de l'expérience de vie. Mais il faut dépasser la première peur de dire « j'ai peur de dire des conneries si je vous dis que tel groupe est hardcore, et puis il y a machin qui va venir me dire que ça n'a jamais été le cas, et je ne veux pas avoir d'ennui ». Donc il y a vraiment une peur des chapelles dans l'expression. Mais dans la pratique, une facilité à en parler avec une série d'impressions qui ressortent des entretiens. La première impression, c'est que l'hybridité tend à s'accélérer, c'est-à-dire on a de plus en plus de personnes qui participent aux mêmes scènes parce qu'on a de plus en plus de concerts qui vont être à la fois identifiés punk et hardcore, et je reviendrai sur les raisons ensuite. Ensuite, ils partagent des repères communs qui sont plutôt des repères de l'extérieur. C'est-à-dire par rapport à un « nous » auquel ils sentent appartenir, c'est qui le « eux » Et là encore, alors d'un point de vue local, je vous parle d'une réalité plutôt nantaise ou de l'Ouest, on a deux limites, plutôt que repoussoir limites. La première, c'est le Hellfest, qui est présenté comme un acteur économique. Là, ce qui revient classiquement dans les entretiens, c'est se dire « ben, j'aurais bien aimé jouer du métal parce que j'aurais eu aucun problème avec l'argent et à bien gagner ma vie ». Et il y a un autre repoussoir qui vient cette fois du hip-hop, où il y a une grosse structure nantaise sur le hip-hop qui est là plus pointée comme un acteur politique qui accepte beaucoup d'argent public et qui fait des concerts de hip-hop où ne vont plutôt que des blancs. Donc là, en termes d'authenticité, ce qui est pointé, c'est « je préfère ne pas gagner ma vie avec la musique, mais être en cohérence entre ma musique, mon public et les idées que je veux défendre. » Quelle que soit leur génération, toutes les personnes qui nous ont parlé nous ont dit que leur amour de ces scènes, il est né à l'adolescence. Personne nous a dit « j'ai découvert le punk à 28 ans, par exemple », ni pour le hardcore. Ça commence généralement au collège avec des achats musicaux et ça se poursuit au lycée avec les premiers concerts qu'on y assiste ou qu'on monte son premier groupe. Du coup, la période d'activité de ces acteurs de la scène, Elle s'intensifie à partir de 18 ans, tout simplement parce qu'il y a le permis, parce qu'il y a la possibilité de se déplacer, parce qu'il y a l'indépendance. Et généralement, elle ralentit après 30 ans, avec une vie de couple plus stable, des enfants et le besoin de gagner sa vie régulièrement, tout en essayant de le concilier ou pas avec la musique. Et on observe, alors sur quelques cas, une reprise de cette activité après 50 ans, avec un peu un rejet d'un monde du travail qui n'a pas apporté grand-chose, et une envie de retrouver quelque chose de positif et de conquérant à travers la musique. On aurait aimé, parce que je suis sociologue, j'aurais aimé pouvoir vous dire qu'on avait vraiment trouvé une différence entre les classes populaires et les classes moyennes. Ça n'a pas été le cas. On n'a pas trouvé ça. Par contre, on a trouvé une distinction sur les parcours de vie. Ceux qui se présentent comme appartenant le plus purement à une seule scène et à la scène punk, c'est des gens qui expliquent que le punk a représenté pour eux ce qu'ils ont retrouvé après une rupture scolaire, après une rupture familiale forte, et qu'ils ont eu besoin d'une identité intègre et justement pas hybride pour s'affirmer dans quelque chose. Donc voilà ce que je peux vous dire de général. Et si je vais dans le plus particulier maintenant, la chose la plus commune, c'est ce qu'on fait sur le territoire. Parce que ça commence à l'adolescence, donc ça commence avec des gens qui n'ont pas beaucoup de mobilité. Donc on fait ce qu'on peut là où on est, d'autant plus quand il n'y a rien. Et en fait, les personnes qui nous ont le plus parlé d'une double appartenance au scène punk et hardcore, c'est des personnes qui viennent du monde rural, qui classiquement, dans les entretiens, disent « ben, on serait resté entre punk, on était trois, donc on s'est mis à fréquenter les choreux comme ça, on était cinq, ça tenait toujours dans une voiture, et on se sentait plus nombreux ». Donc il y a vraiment cette importance du rural. Donc là, je vais laisser parler un guitariste qui a 32 ans aujourd'hui et qui nous dit ce qui s'organisait en Vendée, c'est que pour les concerts, on allait trouver soit du punk, soit du ska, soit du reggae. Les trois allaient tout le temps ensemble. Et je pense que c'est toujours le cas en Vendée. C'était la réunion, quoi. En festival, t'avais tout le temps Punish Yourself et Tagada Jones. Je ne sais pas s'ils en étaient contents, mais ils étaient toujours ensemble. C'était juste le non-mainstream ensemble, car tout était mélangé. Donc c'est vraiment peu de lieux, peu d'opportunités, et on s'initie à un ensemble de scènes en même temps, parce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire. Et c'est ce que dit un autre guitariste de 2 ans plus jeune. Lors des concerts, c'était vraiment l'occasion de se dire « je peux être moi-même », ce que tu ne peux pas faire en ruralité, car on n'est pas beaucoup. Le concert, c'était le moment de s'afficher. On avait tous des styles différents, mais grosso modo, l'esthétique punk était la plus présente. C'était soit crête, soit dread. Donc la première idée du territoire, c'est vraiment on fait avec ce qu'on a avant de pouvoir être mobile. Toujours dans cette idée d'habiter en province, et en province dans une petite ville, ben c'est qu'on fait ce qu'on a aussi chez le disquaire. Et on a recueilli pas mal de témoignages où les gens nous disent ben en fait j'ai commencé par un disque, mais finalement le punk et le hardcore c'était dans le même bac à disques, il était tout petit, donc j'avais pas beaucoup de choix, et à force de chercher dans ce même bac, j'ai écouté les deux. Donc là c'est un batteur de 53 ans qui raconte qu'il écoutait plutôt du hardcore, Trust, Deep Purple, Motorhead, ce genre de trucs, c'était ma culture, mais là je trouve ce disque des Sex Pistols, je le ramène, je me dis putain la claque, oh putain, je rentre dans ma ville. La culture, c'est vraiment pas central là-bas. Il y a qu'un magasin de disques. Je vais voir le mec. Il a un petit bac de punk et de hardcore. Là, je vais trouver tout de suite, le même mois, les Dead Kennedys. Je trouve du Minor Threat. Là encore, c'est la claque. C'est dire que ma rencontre avec le punk, c'est quasiment aussi une rencontre avec le hardcore. Donc, c'est vraiment l'offre, quelque part, qui crée les scènes. Et c'est aussi les gens qu'on écoute. Ce qu'on retrouve beaucoup dans les entretiens, c'est la faible crédibilité de la presse musicale mainstream, celle qu'on retrouve chez son marchand de journaux, et du coup un grand intérêt pour les fanzines. et qui dit fanzine diffère avec les moyens du bord. Donc même si on parle pas tout à fait des mêmes choses, on échange des moyens de production, on s'intéresse à ce que fait les autres, et du moment que quelqu'un acquiert une crédibilité à conseiller des groupes, on écoute tout ce qui conseille. Pour autant, on peut s'ouvrir à l'extérieur. C'est le cas des compiles, KO en France pour les plus vieilles cités, qui font découvrir plusieurs choses. Et c'est aussi le cas, et là c'est pour les plus jeunes générations, et là ça rend difficile pour nous, a posteriori, de travailler sur qui appartient à quelle scène. L'exemple que je vous donnais, qui était facilement délimitable, c'est celui du bac à disque. De l'autre côté, il y a Internet. Et avec la manière d'écouter et de découvrir la musique sur Internet, ça devient beaucoup plus difficile pour les personnes de se souvenir de premières expériences musicales, à la manière de la claque que décrivait le batteur que je viens de citer. C'est plutôt, j'ai téléchargé plein de trucs d'un coup et je me suis mis à les écouter, ou j'ai commencé par une playlist, ou encore plus fréquemment, je lance un truc sur YouTube, je vois ce qu'il me propose après, puis j'écoute ce qu'il me propose après, ça m'incite à découvrir des choses différentes, mais avec une rapidité qui n'existe pas pour les témoignages de la scène des années 80-90, où on décrit plutôt un temps précieux, un argent précieux, qui permettent de se spécialiser quelque part. Le second grand effet local, c'est celle des acteurs publics et des financements et des politiques de ces acteurs publics. Alors, une réalité qu'on retrouve de plus en plus, on la retrouve dès les témoignages des années 80, où par exemple on nous dit « Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de lieu spécifique pour le punk, donc on se mélangeait, on ne se posait pas la question, on voulait aller à des concerts, donc on mélangeait les punks, les rockers, et puis à un moment, les skins arrivaient, là ça partait en bagarre, c'était ça les années 80. » Plus récemment, on a une pénurie de lieux qui est plutôt liée à la manière dont sont financés les lieux. Alors, il y a eu une raréfaction des squats dans une première politique de nettoyage urbain, mais c'est aujourd'hui surtout les politiques liées au bruit et aux normes des bars qui font que les organisateurs de concerts ont de plus en plus de mal à trouver des lieux, donc ils périclitent, donc des orgas se retrouvent à programmer des groupes qui n'étaient pas forcément au départ dans leur cœur de cible, mais si il faut continuer à avoir une offre locale, faut faire comme ça. Donc beaucoup d'entraide, mais très peu de lieux. Et dans les lieux eux-mêmes, et surtout les cafés-concerts, on observe aussi des choses que mettent en place les propriétaires pour limiter le bruit, et limiter les performances. Donc ça, c'est un exemple que donne un guitariste de 42 ans. Nous, on avait réussi à jouer en guitare basse-batterie, mais on était super serrés. Maintenant, ils mettent des scènes vraiment petites parce qu'ils savent qu'ils risquent d'avoir des emmerdes derrière. Tout est devenu tout petit. Je suis devenu un vieux con. Je suis devenu celui qui dit « c'était vraiment mieux avant », mais parce que c'était vraiment mieux avant, parce que c'était fun. On retrouve ça aussi dans le public qui dit « on nous empêche aussi de bouger ». Les musiciens disent « on nous empêche de jouer dans des grosses formations ». Le public dit « on nous empêche de bouger à chaque fois pour ne pas avoir d'ennui ». Et cette idée d'avoir une critique aujourd'hui très forte de l'action publique, elle est très différente d'une vision des années 80, où dans les années 80 sont décrits la force des MJC, des centres socioculturels, et non seulement des scènes qu'ils offraient pour débuter dans la musique, mais aussi de tous les gens qui se sont rencontrés, non pas parce qu'ils écoutaient la même chose, mais parce qu'ils répétaient au même endroit. Soit ils étaient dans un garage, celui de leurs parents, soit vraiment ils venaient tous répéter à la MJC, et c'est là-bas qu'en commençant à discuter, même s'ils n'étaient pas exactement sur le même style musical, ils se sont offerts des occasions de jouer les uns avec les autres et de mutualiser aussi le coût des tournées. Dernier aspect qui est vraiment le plus clivant autour de ces politiques publiques, c'est « faut-il faire carrière en tant que musicien ?» Et l'idée qu'aujourd'hui, ce qui s'est fermé dans ces MJC, dans ces maisons de quartier, plus largement dans les SMAC, c'est qu'aujourd'hui, on peut y répéter comme un amateur quand on a 18 ans, mais si on vient toujours en répète à 25 ans, y a quelqu'un qui va demander « vous voulez devenir professionnel, vous voulez faire carrière, est-ce que vous voulez faire une formation, est-ce que vous voulez vous inscrire dans une découverte de la gestion de projet, et donc une défiance vis-à-vis de ces scènes et une reconnaissance commune dans un underground qui refuserait, tel que les gens le disent aujourd'hui, je vais pas, le do it yourself, c'est pas devenir auto-entrepreneur. Donc je vais pas rentrer là-dedans. Troisième chose qu'on retrouve dans ces discours, c'est la question de l'intensité qui est commune. Le premier mot pour parler d'intensité, c'est de parler de l'énergie. Alors cette fois, c'est un batteur de 41 ans qui parle. Je le dis à très peu de personnes, comment dire, c'est une catharsis, c'est sexuel aussi. Ma batterie, elle est en acajou, elle est chaude, elle est rouge. Il y a toujours un moment où je vais chercher cette transe dont je te parlais pour les fesses noses. C'est-à-dire que tu as de l'hyperventilation, tu as des endorphines, franchement, t'es défoncé. Je bois pas, je fume pas avant les concerts. Après le concert, j'aime bien me prendre une petite bière cul sec. La deuxième, je tire deux taffes sur un pétard. Je suis défoncé pendant 2 heures et après, on met du son dans le bar, on squatte, on danse et c'est monumental. Donc, quelque chose qui est vraiment commun dans ce que transmet la musique. Et dans ce que transmet la musique, elle est aussi présentée comme un exutoire, presque, dans la citation que vous allez voir, qui est celle d'un jeune batteur et chanteur de 22 ans, c'est presque comme s'il utilisait tous les genres musicaux comme des armes pour vraiment y aller fort et pour vraiment que le public se déchaîne. Je joue dans un groupe de power violence, la forme de punk la plus violente qui puisse se faire. C'est un mix entre du punk, du hardcore, du crust, du metal, du death. On a essayé de mettre tous les styles les plus bourrins. On a mixé tout ça pour faire un truc encore plus agressif, parce que nous, c'était notre objectif. Et dans cet exutoire, on trouve à la fois la manière de faire la musique, mais on a aussi beaucoup de récits du premier concert hardcore où vont les punks. Et ils se mettent au milieu et tout d'un coup, ça commence à danser beaucoup, beaucoup. Ils se rappellent d'avoir eu peur, d'avoir été très bousculés et de s'être dit « je vais revenir parce que ça m'a fait peur, donc c'était bien ». Pour les plus puristes, c'est difficile de parler d'hybridité des scènes quand ils parlent du présent, mais par contre, c'est facile de s'inventer un passé commun. Et on retrouve énormément dans les entretiens des lieux de mémoire locaux. Un lieu emblématique, c'est le Floride, qui est une boîte de nuit qui est ouverte en 78. Donc s'y est fait tous les concerts punk parce qu'ils en offraient l'opportunité. Ils avaient besoin de programmer très vite des concerts. C'est une boîte qui existe toujours aujourd'hui. Et on a des personnes qui ont 20 ans qui disent « mais le Floride, c'est trop bien. Est-ce qu'on t'a bien dit qu'avant, ils étaient à République ?» Donc la conscience qu'ils aient déménagé, ce qu'ils ont fait dans les années 80. Et surtout, le concert dont ils parlent tous, c'est un concert de Noir Désir de 88. C'est-à-dire quand ils étaient même pas un spermatozoïde en devenir. Donc ils ont vraiment un partage commun de choses qu'on aurait aimé vivre, qui étaient avant, même si c'était pas le même genre musical. Et dans cette intensité, la dernière chose, l'expression qui revient tout le temps, dans tous les entretiens quasiment, c'est « jouer vite, jouer fort ». Et on pourrait l'appliquer au hardcore autant qu'au punk. Et c'est vraiment cette recherche d'intensité dans la manière de jouer, mais qui fait aussi un décrochage des scènes quand on vieillit. C'est-à-dire le moment de se dire « j'ai changé un peu mon style, c'est pas parce que j'aimais pas ce que je jouais avant, c'est parce qu'aujourd'hui, je me sens plus de jouer de la même façon et de tenir tout un concert ». Là où ça se corse, c'est quand la musique va être associée à une forme de contestation politique. Et c'est là que reviennent les différences dans l'identité. Alors, on est à Nantes, donc c'est-à-dire qu'on est près de la Bretagne. Un exemple d'un batteur qui dit « je jouais dans un groupe de hardcore breton ». C'était pas mal de traditionnelles version hardcore. On chantait en breton. À l'époque, j'étais militant, entre guillemets, surtout les concerts en centre-Bretagne ou en Pays basque. On faisait des petites réunions internationalistes, on va dire. C'était un gros sujet de vanne, de discorde, parce que je jouais aussi dans un groupe d'anarcho-punk, pur jus, qui aimait vraiment pas ça. Mais moi, j'étais attachée à la Bretagne libre et indépendante. Donc c'est à partir du moment où se pose la question, soit dans les lieux où on joue, soit dans les textes qu'on écrit de l'engagement politique, que se font les dissensions. Pour autant, ces textes, c'est aussi une manière de s'acculturer politiquement avec la musique. Et c'est ce que dit un musicien de 22 ans. Je m'intéresse beaucoup plus au punk et au hardcore parce que ça forme un tout. Je peux écouter beaucoup d'autres choses, tout ça, du métal par exemple, mais c'est pas ma came. On cherche tous des choses différentes dans la musique. Moi, ce que je cherche, c'est à éveiller ma conscience. Quand je parle d'antifascisme, tout ça, ça m'a permis de m'intéresser à des choses que je déteste. Pour les combattre, il faut les connaître. Donc, utiliser la scène pour plus largement se démarquer. Alors, c'est ce qu'on voit, je vous donnais l'exemple du Hellfest, mais de prendre un gros événement local aussi et de se déclarer en faveur ou contre pour se donner une position et une éthique au sein de la scène. C'est aussi participer à des causes politiques par des concerts ou par du financement. On parlait des Rock Against. Ben, à Nantes, ça commence en 82 avec Rock Against Shoti, qui est le maire de droite de l'époque, et qui ferme plein de lieux. Et ça devient aujourd'hui des concerts de soutien aux migrants. C'est donc plus on va vers l'identité, plus on va vers des dissensions. Ces dissensions, elles s'expriment dans une rupture entre la manière dont on a découvert la musique et la manière dont on la pratique aujourd'hui. La famille joue un rôle énorme dans la manière de la découvrir. Alors, il y a le fait d'être en rupture, mais il y a surtout le fait d'être dans une continuité de découverte. Et on a énormément d'exemples dans les entretiens des premiers concerts qui se font avec les grands frères, les grandes sœurs, les pères et les mères, qui initient à une manière de faire de la musique. Après, on se trouve soi-même, mais au départ, on perpétue un amour de la musique et une connaissance de quelques figures tutélaires aussi qui accompagnent ces discours. Sur les mots qui sont employés, comment est-ce qu'on parle de ceux qui se disent appartenir qu'à une scène ? Ben, on les appelle les monomaniaques, les réacs, les puristes. Comment est-ce qu'on appelle ceux qui participent à plusieurs scènes dans les entretiens ? Les gens ouverts, les éclectiques, ceux qui savent pas ce qu'ils veulent. Donc c'est pour vous dire que personne est d'accord. Et je voulais conclure par deux citations qui parlent d'appartenir à un genre. C'est deux citations de jeunes musiciens qui ont tout juste la vingtaine. Le premier qui dit « Le punk, le hardcore, souvent mes potes métalleux me disent que c'est une musique de branleur parce que c'est trop simple. Mais je veux dire, pour construire des putains de structures qui envoient où t'as aucun moment de relâchement, faut vraiment sentir le morceau. Les meilleurs pour moi, c'est le jazz, c'est le punk, c'est le reggae. Mais du moment que le morceau est bon et qu'il y a un travail derrière, on n'est pas dans de la musique de branleur. C'est pas les mêmes difficultés, c'est pas les mêmes manières de travailler. » Et de la part d'un autre jeune musicien, ça va vraiment ramener au côté provocateur du punk. On n'arrête pas de me dire que je fais du punk, mais moi, mon groupe, ce qu'on fait, c'est vraiment de la pop, qui est un peu le mot maudit. Tu peux faire la musique que tu veux. À un moment, le punk, il va venir comme une étiquette. Et nous, on s'est rendu compte que cette étiquette, elle était vraiment porteuse d'un message. Et c'est pour ça, finalement, qu'on se laisse dire punk. Voilà, merci.
Merci, Elvire. Et par extension, Frédéric, Thibault.